entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Canu 102.2 FM et on commence le Canu Info anticarcéral du vendredi avec au programme ce soir plein de petites choses avec des petites infos un peu de partout. Puis après des nouvelles de Turquie avec une interview d'une camarade qui vit en Turquie et qui va nous parler de l'incendie de la mine de Soma et de ses conséquences dans le pays. Et dans la partie anticarcérale, parce que c'est notre Canu Info anticarcéral du vendredi soir, on va parler de l'Oklahoma et de la peine de mort aux États-Unis. On va parler des Pays-Bas et qu'ils ont trop de tôle pour pas assez de détenus, alors les Pays-Bas cherchent des solutions. On va parler de VARS et la condamnation de l'État suite aux conditions indignes de détention d'un détenu. On va parler de Corba où un détenu à côté de Lyon, la prison à côté de Lyon, on est à 108 jours de mitard et que c'est un peu fou. Puis on passera au traditionnel bref de détention, bref d'évasion et enfin on aura des messages pour les détenus de la région lyonnaise. On commence tout de suite avec des nouvelles d'Argentine, de Finlande et de Vietnam. Alors en Argentine, qu'est-ce qui se passe ? En Argentine, c'est un peu la merde, les retraites, pour les retraités, parce que les retraites ne sont plus valorisées depuis quelques années. Et avec une inflation à 30% par an, ça fait que les prix qui augmentent à une vitesse vraiment vertigineuse et que les retraités gagnent toujours exactement la même somme. Et du coup, ils sont en train de crever petit à petit. Alors voilà, et qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben, ils ont porté plainte massivement contre l'État. Et c'est 338 417 plaintes exactement qui ont été déposées contre l'État argentin par les retraités argentins qui demandent une revalorisation de leur retraite. Voilà, bah, à suivre, on espère pour elles et eux qu'elles vont obtenir un gain de cause. On continue avec une nouvelle de la Finlande. En Finlande, c'est un pays là au nord de l'Europe, dans l'Union Européenne. Une nouvelle série de timbres va être mise en circulation. Elle va être imprimée cet été. Et dessus, pourquoi on en parle des timbres finlandais ? Il doit y en avoir beaucoup dont on parle jamais. Mais c'est les œuvres de Touko Laaksonen, un artiste et icône gay qui aimait peindre vraiment de beaux hommes musclés, moustachus, dévêtus. Et c'est ces timbres-là, ces œuvres-là qui vont être produites sur les nouveaux timbres finlandais. Au moment où la Finlande commence les débats au Parlement sur le mariage des personnes lesbiennes et des personnes gays, et où ben, en fait l'initiative de la Poste passe pas inaperçue. Et il y a plein de gens qui kiffent trop, et les timbres qui seront disponibles seulement en septembre, il y a déjà des milliers de commandes en fait à travers toute la Finlande et à travers le monde pour avoir les premières plaques imprimées. Ça risque d'être la série la plus vendue du pays de timbres de Finlande. Bon voilà, c'est des petites nouvelles légères, et puis on continue avec le Vietnam, où on reste sur les droits des personnes gays et lesbiennes, et pour annoncer qu'au Vietnam, l'Assemblée nationale est en train de finir un travail sur la loi sur le mariage et la famille, qui a priori, ça devrait déboucher sûrement vers la légalisation du mariage des personnes de même sexe. Et cette loi a de fortes chances d'être votée cette année. Alors voilà, on souhaite bon courage aux parlementaires et surtout à toutes les personnes homo au Vietnam pour obtenir ce droit-là. Et ça leur fera bien du bien. On va ensuite parler de la Turquie. Et en attendant, on va se passer une petite musique. Et c'est Offenbach. Voilà, on en profite, on est sur Radio Canus en 2.2 FM, la plus rebelle des radios, pour passer du classique écrit il y a longtemps. C'est une marche funèbre, mais elle n'est pas triste, écoutez. Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2 FM et on a un petit problème pour avoir notre correspondante en Turquie ce soir. Du coup, peut-être qu'on va essayer un peu plus tard, mais en attendant, on va continuer avec le Canu Info anticarcéral et ce qui se passe en Oklahoma. En Oklahoma, au sud des États-Unis, un État qui continue à appliquer les peines de mort et que du coup, avec une exécution qui a mal tourné la semaine dernière, avec un détenu qui n'a pas voulu mourir pendant l'injection létale et qui a souffert pendant 3 quarts d'heure avant de mourir et que du coup ça a ému beaucoup de monde. Il a vécu un enfer, on peut supposer. Et voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde un peu proteste contre le sort qui a été fait à cet homme-là. Cet homme s'appelle Clayton Lockett. Et par exemple, c'est même le directeur de la tôle dans laquelle l'exécution a eu lieu qui a demandé à ce qu'il y ait un moratoire sur toutes les exécutions, qu'il y ait un rapport d'enquête qui soit fait, que ce rapport soit conduit par une institution extérieure à l'administration pénitentiaire et qui a fait une lettre ouverte pour réclamer ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à ce qu'un directeur de prison demande comme ça à la fin des exécutions ? Clayton Lockett, dès le matin, de toute façon, il voulait pas mourir et on le comprend bien, il s'était lacéré le bras. Excusez-nous, on va retenter la petite insert téléphonique. Et l'insert téléphonique ne marche toujours pas, désolé pour le Larsen, on n'arrive pas à le faire fonctionner ce soir. Et oui, Radio Canu, c'est aussi ça, c'est aussi des petits problèmes techniques. Donc, on reprend sur l'Oklahoma, sur Clayton Lockett qui s'est fait exécuter la semaine dernière et qui voulait pas mourir, et notamment, il s'est automutilé le bras la veille de son exécution et le matin... À l'aube, quand les matons sont allés le chercher, ils ont dû lui mettre des coups de taser parce qu'il voulait pas sortir de sa cellule et il voulait pas qu'on l'emmène dans la salle d'exécution et subir l'injection létale. Voilà. Et ensuite, le phlébologue, c'est comme ça qu'on appelle les bourreaux dans le langage carcéral aujourd'hui. Il trouvait pas d'endroit pour placer l'intraveineuse qui allait tuer Clayton Lockett, et du coup il a aux bras et aux jambes, c'était pas possible, il l'a fait à l'aine, et en plus de ça il a loupé son injection et il a fait une intramusculaire au lieu d'une intraveineuse, et du coup Clayton Lockett est mort en beaucoup plus de temps que voilà, et avec beaucoup plus de souffrance. Et du coup, ça a fait notamment, il y avait deux exécutions prévues ce jour-là, la deuxième a été tout de suite annulée, et le directeur de la tôle, du coup, recommande de demander à la cour d'appel pénale d'ordonner l'arrêt indéfini des exécutions en Oklahoma. Voilà pour ce qu'il dit, mais en fait, il dit ça afin de pouvoir faire une commission qui va décider de comment est-ce qu'on va pouvoir exécuter les détenus plus proprement à l'avenir, et du coup c'est un peu soulager sa conscience, mais simplement il veut pas démissionner, il veut que à l'avenir son sale boulot soit fait un peu plus proprement, parce que pour avec peut-être un poison plus fort ou une vraie intraveineuse, tout ça, ça empêchera pas que Lockett a voulu se suicider avant l'exécution, ça empêchera pas aussi qu'il voulait pas sortir de sa cellule, ça empêchera pas qu'il voulait pas mourir. Voilà ce qu'on peut dire sur ce qui s'est passé en Oklahoma, c'est pas la joie. On va se remettre une petite musique avant de passer à la suite. Thank you.
c'est toujours les infos sur Radio Canu 102.2 et on continue avec des nouvelles des prisons aux Pays-Bas.
Aux Pays-Bas, qu'est-ce qui se passe ? Le Pays-Bas a un problème, il a trop de prisons, pas assez de détenus. Les Pays-Bas cherchent des solutions. Il y a par exemple 9914 matons pour seulement 9710 détenus, donc il y a plus de matons que de détenus, ce qui est un peu fou, quoi. Ça doit être vraiment l'enfer pour les détenus dans des conditions pareilles. Le nombre de détenus, il est en chute libre, ils étaient 15 000 en 2010, il y en a moins de 10 000 aujourd'hui. Et il y a de quoi enfermer 16 400 personnes dans les tôles du pays, du coup ça fait presque une cellule sur deux qui est vide. Que faire des 6 700 cellules vides aux Pays-Bas ? C'est ce que se pose le gouvernement. Mais d'abord, pourquoi est-ce que ça diminue autant les peines de prison là-bas ? Sûrement grâce aux alternatives à la tôle, toutes les peines de moins de 8 mois ferme sont transformées en services communautaires, l'équivalent des travaux d'intérêt général en France, quoi. À titre de comparaison, en France c'est possible aussi pour les peines inférieures à 6 mois, mais c'est rarement appliqué, alors que là-bas c'est systématique, et du coup ça fait quand même un gros ménage pour les petites peines et trouver d'autres solutions que d'enfermer les gens.
C'est l'inverse des peines planchées.
Voilà, c'est exactement ça. Et que faire du coup face à toutes ces tôles qui sont vides ? L'État veut fermer 29 prisons sur les 85 du pays et supprimer 3700 emplois chez les matons. Déjà, peut-être les détenus auront des petites bouffées d'air avec moins d'un maton par détenu, quoi. Supprimer autant d'emplois, je sais pas, ça me fait penser, on entend d'ici gueuler les syndicats, si jamais ça arrive en France, c'est les syndicats qui vont dire non, 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 et il faut conserver l'emploi, sauver nos prisons et les remplir, quoi. Bon, là-bas, je sais pas comment ça va se passer, mais on espère que les syndicats vont être de matons, vont être un petit peu plus raisonnables qu'ici. Et supprimer autant de tôles, ça pourrait poser à l'avenir même des problèmes de surpopulation, et du coup, les Pays-Bas envisagent de développer le bracelet électronique. Pour faire des économies. Parce que au fond de ça, c'est quand même des histoires de thunes qui gouvernent l'affaire. Et dans la nouvelle réforme pénitentiaire, le gouvernement trouve que les tôles lui coûtent bien trop cher. 250 € par jour et par détenu. C'est un peu dur. Quelle solution le gouvernement a trouvé ? Faire payer aux détenus leur propre enfermement à 16 € par nuit. Passer en tôle, c'est un peu fou, quoi. Et à ce prix-là, je sais pas, 16 € par nuit, il y a peut-être intérêt d'avoir le câble, le satellite, quelque chose en prime, parce que c'est pas un hôtel, la tôle, quand même. Et le ministre de la Justice a d'ailleurs tout prévu, un maximum de 2 ans à payer, comme ça, les années suivantes sont gratuites. Les longues peines pourront même remercier l'administration pénitentiaire pour sa générosité de l'accueillir gratuitement au-delà de 2 ans. Et si les détenus n'arrivent pas à payer, il y aura même des prêts à taux très avantageux pour eux et leurs familles qui pourront rembourser après. Voilà, donc c'est une affaire à suivre. Et en attendant la destruction de ces quelques tôles, les Pays-Bas louent 650 cellules à la Belgique qui a, elle, le problème inverse, c'est-à-dire la surpopulation carcérale. Pop, pop. Voilà pour ce qu'on peut dire des Pays-Bas. Et on va peut-être passer à Vars.
Et oui, à Vars, donc là, ce coup-ci en France, dans le sud, à côté de Grenoble, je crois.
À côté de Grenoble, l'État a été condamné à verser des indemnités à un détenu. Le tribunal administratif de Grenoble, donc, a rendu son jugement le 30 avril. Et l'État doit payer 1 000 € à un ancien détenu de Vars. Et c'était déjà il y a 5 ans qu'il a été libéré, qu'il a commencé les procédures pour être indemnisé. Il demandait 95 000 €, ça a été divisé par 95. Bon, ça fait pas grand-chose, 1 000 €, c'est symbolique. Pourquoi l'État a été condamné ? Simplement pour des conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, avec des fils électriques apparents à proximité des lavabos dans les cellules, des toilettes dégradées, des douches insalubres et même des invasions de cafards qui amènent les détenus à boucher les conduits d'aération avec du carton. Du coup, le détenu avait porté plainte en 2009 déjà. Cet été-là, il avait réussi à faire intervenir un architecte pour faire constater l'état des lieux en détention. Ce qui est une petite victoire en soi. La citation du rapport du tribunal administratif rendu il y a 3 semaines, c'est... c'est le rapport de l'architecte qui disait « Il est vraisemblable que dans un certain nombre de cas, le radiateur en place ne permette pas de compenser intégralement les déperditions de chaleur dues aux défauts affectant les ouvrants, c'est-à-dire les fenêtres. » Et du coup, même les cellules, il faisait trop froid pour y vivre, quoi. La réaction de cet ancien détenu, c'est que 1000 euros, c'est symbolique pour 6 ans de détention avec des rats, de la chaleur et le gel. C'est pas grand chose. Et le 23 décembre 2009, Mourad Mamar est mort à Vars, intoxiqué par les fumées d'un incendie dans sa propre cellule. En fait, il n'y avait rien pour prévenir les surveillants en cas d'incendie dans la prison de Vars. Il n'y avait pas d'extracteur de fumée non plus. Et d'ailleurs, le seul maton qui était présent, il était juste devant la porte de la cellule. Il n'avait pas de clé pour sortir le détenu de l'incendie. Ça fait des années que l'OIP, l'Observatoire international des prisons, a déjà demandé la fermeture du bâtiment principal de l'établissement, c'était en 2011, pour la mise aux normes de sécurité incendie, mais le bâtiment n'a jamais été fermé et il n'y a toujours rien en cas d'incendie. Alors voilà ce qui se passe à Vars, c'est pas joli et voilà. Peut-être on va continuer à se rapprocher de Lyon pour parler de la prison de Corba. Et qu'est-ce qui se passe à la prison de Corba? Il y a un détenu, on peut l'appeler Samir. Depuis le 20 janvier, il est en cellule disciplinaire. Là, on est le 17 mai et il y est toujours. Au départ, en fait, c'était l'administration pénitentiaire qui voulait le transférer d'un bâtiment à l'autre à l'intérieur de la maison d'arrêt de Corba. Mais il a refusé parce qu'il s'estime en danger après des menaces d'autres détenus. Du coup, il est allé au mitard parce qu'il avait refusé. Le refus d'un transfert à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire, ça vaut normalement 14 jours maximum de placement en cellule disciplinaire. Mais là, pour le coup, ça s'éternise parce qu'on en est à plus d'une centaine de jours. Ça fait plus d'une centaine de jours qu'il demande à aller au quartier d'isolement où il pourra au moins avoir ses deux parloirs hebdomadaires. Mais le directeur de la tôle, lui, il rétorque qu'il n'y a plus de place. Samir, du coup, demande un transfert dans une autre prison. Et là, l'administration pénitentiaire, c'est juste le grand silence. Et voilà. Et maintenant, ça fait bientôt 4 mois que Samir est en quartier disciplinaire. Alors que le maximum légal, c'est de 30 jours pour les faits les plus graves, selon l'AP. Et l'AP estime... Pourquoi est-ce que l'AP, elle est aussi... immobile, elle estime qu'il n'y a pas de preuve de menace contre Samir. Du coup, sa solution, c'est juste ne rien faire et le laisser au mitard. Un responsable de la tôle dit que généralement, au bout de 2 mois, la direction interrégionale s'occupe d'un tel détenu et décide d'un transfert dans une autre maison d'arrêt. Et là, il n'y a que dalle. On va s'écouter une petite musique, faire une pause au milieu de Canu Info. Désolé pour les petits problèmes techniques. On n'a pas réussi à avoir la Turquie au téléphone, mais ça viendra un jour.
Et c'est toujours les infos sur Radio Canu, et on continue avec cette partie anticarcérale, où en fait des fois, on peut préférer la prison au bracelet électronique.
Qu'est-ce qui s'est passé au début du mois de mai dans le Pas-de-Calais? C'est un détenu qui était enfermé sous le régime du bracelet électronique, et il a découpé son bracelet et voulait retourner en prison. Alors, dans les médias mainstream, c'est la misogynie qui revient à balle et qui dit que c'était à cause de sa femme. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse et voir pourquoi est-ce qu'on peut préférer aller en tôle que de garder un bracelet sur soi et de se mettre dans des situations comme ça. Le bracelet, c'est une alternative à l'enfermement en prison. Ça fait des années que ça existe. On a un bracelet électronique avec une petite borne dans son appartement, et la borne a enregistré où est-ce qu'on peut mettre un pas, et si on met un pas à l'extérieur de l'appartement, ça sonne, on est considéré évadé, on retourne en tôle. Voilà, du coup, le bracelet, il oblige à rester chez soi en dehors de certaines horaires où on peut sortir, et on peut sortir pour juste travailler ou chercher un emploi. Chercher un emploi, c'est 4 à 8 heures par semaine. Travailler, si on a un 35 heures, il faut aller juste très vite de chez soi à son travail et de son travail à chez soi le soir. Il n'y a aucune liberté, aucun moment où on peut traîner dehors. Pour la paix, c'est pratique, ça coûte moins cher. Pour l'administration pénitentiaire, pour des détenus, pas mal de détenus sûrement, ça peut être mieux que d'être enfermé entre quatre murs, mais pas toujours. Parce que le bracelet, c'est la prison à la maison. Et parce que avec le bracelet, on est son propre maton, et que ça, c'est quand même super dur à faire. On peut sortir seulement à quelques moments. Le reste du temps, on doit se retenir soi-même à sortir de chez soi. Et si on en a très envie, on peut quand même pas. Et si on vit toute seule, c'est l'isolement. Si on vit avec des personnes avec qui on sait la merde ou avec qui on s'entend pas, c'est l'enfer. Mais en plus de ça, une fois que l'administration pénitentiaire a posé son bracelet à une personne, elle écoute pas plus les détenus que dans n'importe quelle maison d'arrêt. Ça veut dire qu'elle s'en tape, et ça veut dire que si on a une réclamation, si on a quelque chose, en fait, on l'aura pas. Et ça sert à rien, du coup, de réclamer de retourner en tôle si on supporte pas le bracelet. Parce que l'administration pénitentiaire, elle en a rien à cirer. Et du coup, ça fait que si on supporte plus la situation, ça, ce qui arrive à cette personne-là, il a découpé son bracelet pour se mettre en situation d'évasion. Puis après, il s'est présenté chez les flics ou à la tôle en tant qu'évadé. Et du coup, qu'est-ce que ça ? Il a pris 2 mois de tôle en plus de ce qu'il avait de base. Ce qui est un peu fou, quoi, parce que si la paix, elle avait un minimum de communication avec les gens, en fait, il n'aurait pas pris 2 mois de plus. Voilà pour ce qui se passe autour du bracelet électronique, et que les alternatives à la prison, c'est bien que ça existe, mais c'est pas la panacée, et la prison à la maison, c'est assez insupportable.
Mais quand même, on en revient à la prison avec les brèves de détention ?
Ouais, et les brèves de détention traditionnelles du Canu Info du vendredi soir sur 102.2 FM. C'est raconter un peu toutes les petites nouvelles des prisons, les petites révoltes individuelles, les grandes révoltes collectives et l'inverse, et pour montrer que il y a de la résistance, pour montrer qu'il y a des gens qui se battent en prison, et pour informer sur tout ce qui se passe à l'intérieur des murs, et voilà.
Et ça commence avec les matons qui réclament encore plus de sécurité, d'armes et d'impunité, puisqu'ils ont manifesté entre le 6 et le 15 mai, où aussi ils ont bloqué plein de tôles à Besançon, à Douai, à Laon, à Rodez. Je ne vais pas toutes les dire, mais il y en a en tout 33 dans toute la France. Voilà, donc si les détenus arrivent à faire un tel mouvement social, la peur va vraiment changer de camp.
Et pour l'instant, on n'y est pas. On continue avec Fleury, Mérogis, où c'est triste, 2 détenus sont décédés en quelques jours. L'une est morte le 28 avril et le second le 10 mai. Et l'administration pénitentiaire dit que ce sont 2 personnes qui se sont suicidées. On ne sait pas.
Et le mois dernier, on vous avait parlé d'un détenu qui avait tenté de s'évader en plein tribunal à Angers. Et au début de ce mois-ci, en mai, on a appris qu'il avait tenté de se suicider. Donc sortir de prison par tous les moyens, en fait, l'administration pénitentiaire, elle ne comprend toujours pas qu'il vaut mieux être vivant dehors plutôt que mourir à l'intérieur.
Ces quedins, ouvertes en 2005, on n'en finit jamais avec les preuves que c'est vraiment, vraiment une tôle de merde. Et ce mois-ci, c'est un défaut de tuyauterie qui est à l'origine d'un taux très élevé de bactéries légionnelles dans l'eau de la prison. Les légionelles, elles provoquent une maladie grave, la légionellose. Et les architectes de cette tôle, qui est toute neuve et qui ont été grassement payés pour enfermer les gens, n'ont même pas été foutus de mettre des tuyaux aux normes.
Le 30 avril, dans la tôle de Minde, un détenu a mis une fois son matelas, et quand les matons sont arrivés devant la cellule, ils ont été accueillis par des projectiles et des coups de pied. Mais la paix ne dit rien des motivations du détenu.
On continue avec le dimanche 4 mai, ces trois personnes qui se sont fait prendre en train de jeter des colis dans la cour de promenade de la tôle d'Albi, dans le sud. Le contenu, des téléphones portables et de la viande, un colis de première nécessité quand on est enfermé, ça leur a quand même coûté un mois de prison.
Et le lendemain, donc le lundi 5, aux abords de la tôle de Cesse, près de Toulouse, il y a 4 personnes qui ont tenté de jeter des colis de l'extérieur vers la cour de promenade. Mais dans ce coin-là, le voisinage est ingrat, puisqu'ils ont été visés par des tirs de plomb. Et donc ils ont été arrêtés par les flics, mais rien n'a été fait contre le citoyen flic qui leur a tiré dessus.
On continue le 10 mai, un détenu a tailladé la joue d'un maton dans la tôle de Lens. L'administration pénitentiaire ne dit rien des raisons de sa colère.
Et enfin, le 13 mai, mardi, une personne a été surprise en train de lancer un colis au-dessus du mur de la tôle de Villefranche-sur-Saône. Malheureusement, les flics l'ont pris en chasse et elle s'est fait arrêter.
Voilà pour les brèves de détention et on continue avec les petites brèves d'évasion pour montrer que partout, partout dans le monde et partout en France, il y a des détenus qui veulent sortir et qui y arrivent aussi régulièrement que les murs y sont hauts mais ils sont jamais infranchissables.
Et ça commence début mai avec un détenu qui était incarcéré à Fresnes et qui a eu une permission de sortie, mais qui n'est jamais rentré et il s'est évadé. Il a été rattrapé quelques jours plus tard, il a expliqué qu'il ne voulait pas retourner en tôle parce qu'il refusait de ramener du shit pour ses co-détenus. Et il a pris 6 mois ferme sans mandat de dépôt.
On continue avec dimanche 4 mai dans la tôle de Valence au sud de Lyon. Les matons demandent à un détenu de sortir les poubelles. Ni une ni deux, ce dernier se fait la belle. Mais il a été rattrapé quelques minutes plus tard, malheureusement.
Et le même jour, à Deer Ridge, je crois, dans l'Oregon, aux États-Unis, il y a un détenu qui, lui, a réussi à se faire la malle, mais rien n'est dit sur la manière. En tout cas, apparemment, il court toujours.
Et décidément, c'était toujours ce même dimanche 4 mai qui était propice aux cavales, parce qu'en Louisiane, c'est un détenu de Washington Parish qui était occupé à prendre soin de chevaux à l'extérieur de la tôle. Il s'est barré sans donner de nouvelles au maton et il n'a pas été retrouvé. Peut-être qu'il s'est barré à d'autres chevals pour sa belle.
Et puis le lendemain, lundi 5, à Bahreïn, un état de la péninsule arabique, 3 détenus se sont évadés d'une prison qui est située sur l'île Muharak. Je crois qu'on dit comme ça, mais je ne suis pas très sûr. En tout cas, on ne sait pas comment ils sont pris, mais c'est la deuxième évasion en 15 jours dans cette tôle.
Le même jour, en Grande-Bretagne, c'est un détenu qui s'est évadé de la tôle de Stanford Hill. Les médias ne disent pas comment il s'est débrouillé, mais il n'a pas été repris. On lui souhaite une longue cavale.
Et puis mercredi 7 mai, un détenu de la tôle de Columbia, en Floride, s'est évadé. Après avoir escaladé à l'intérieur des conduites d'aération, il s'est retrouvé dehors et il court toujours.
Décidément, c'est quand même la bonne quinzaine pour les cavales, parce qu'il n'y en a aucun qui a été rattrapé. Presque le même jour, c'était le 7 mai aussi, plus proche de nous, à Palerme en Italie, un détenu a cassé les barreaux de sa cellule et il a désescaladé le mur avec une corde de drap tressée pour retrouver la liberté. Pareil, les flics l'ont pas retrouvé.
Et 2 jours après, le vendredi 9 mai, il y a 3 jeunes, donc mineurs, qui sont évadés de la prison de Valentine à Marseille. Ils ont empilé des tables et des chaises dans la cour de promenade pour passer au-dessus du mur d'enceinte. Donc une belle évasion, mais courte cavale, puisqu'ils ont été rattrapés quelques heures plus tard par les flics.
Et le 10 mai, c'est un détenu de la prison de Mule Creek en Californie, aux États-Unis, qui s'est évadé. Souvent aux États-Unis, on ne sait pas comment il s'y est pris, mais par contre, il a été rattrapé par les flics le lendemain.
Et enfin, le dimanche 11 mai, 2 détenus se sont évadés de la prison de Dimbokro, en Côte d'Ivoire. Ils ont utilisé une corde pour franchir le grillage d'enceinte de la tôle, et eux, ils courent toujours.
Et voilà, on va se faire une mini pause musicale avant de passer au message.
Thank you.
Vous êtes toujours sur 102.2 FM, Radio Canu, le Canu Info anticarcéral du vendredi soir. Et maintenant, on va écouter les messages de la part de proches de détenus pour les détenus des prisons de Lyon-Corbas, de Saint-Quentin-Falavier, Mézieux, et voilà.
Askatasuna. Les luttes n'ont pas de frontières. La répression des États non plus. Askatasuna. Les luttes n'ont pas de frontières. La répression des États non plus. L'autodétermination des peuples, des langues, est à défendre, à soutenir, à combattre. Nous laissons la parole aux familles de prisonniers et prisonnières basques. Nous parlons de ce qui se passe là-bas au Pays Basque, de ce qui se passe ici dans les tôles de Corbas, Villefranche, Roanne. Parce que les luttes n'ont pas de frontières ni de murs. Askatasuna. Liberté et solidarité.
Jonetxo zaio naiz, Zaldiko zer moduz ongi pentsatzete honen zala, ni guantxe eune bukatzear, pixuko bilera dauku, eta gaurko lana ja bukatutzat eman ditot, eta nola aukera neuken tarte hontan ba, zuri deitzeko, ba, notizi batzuka ditot, eta bata lehenengoa El Salvadorra noala iganden, igual amak esango zizu zerbait, ba, sortu zait aukeran jardunaldi batzutan parte hartzeko, Latinoamerikako beste feminista batzukin, da Europako beste batzukin ebai, pixkoaz ba, indarkeria sexistaz, eta baita ere, ba, bizitzen aigan egoera sozioekonomikoan ingurun eta pixka eta analisi bat iteko, eta ze aukera dauden aztertzeko, eta aia boi, aztetxo bat. Eta bueno, gero bestela, ba, lanen buru belarri, 2014ko abendun, izanen dio segarren topaketa feministak, emakumea bertzalen topaketa feministak, eta horko proposamenakin, da eztabaidakin, da iesan, nahiko buru haustekin. Baina, bueno, ongi esan egu. Eta hoi, pues, esan nahi nizun ja ekaineko bisitai hartu dauketela, eta abuztun joanen nahi zelare bai, edur joango deun batean, eta abuztuan aurreneko azten, aste arte eta aste azkenen joanenga, edurrekin jendau bisita aste artean, da ni joanen eiz abioiez aste azkenen. Orduan, ba hoxe, bueno, zura makine honen ez, aste honetan eontzatea elkarrekin, baina iba, muixu haundi ba bi alinein izula jago auketela ez deneoteko zu, eta egiesan batzutan, ba, gorra itxazait, ez zutea gauzasko kotatu nahi izkizo, baina idaztenen ez astean, eta irratira deitzeko ere, bueno, jaia bete honetan inglesa ja ez dauket, orduan aukera dauket, baina bestelare motz gelditza zitzaien askotan, da, bueno, kostatzen zaitela batzutan, ba, komunikazioi mantentzea, baina, bueno, zanet, pues, nere bihotzen txoko handi badaukezola, bakizo, eta hoi animo pile bat, emateizkizot, pile bat matxeza jotela, eta gogauket eoteko zu berri, eta bixe, eta pixkanaka ba, berrartzeko ere bai ez, ba, harremana, eta guzti hori, ineula seguro, eta seguro zorea garri ineula, osea, que horrek ez dit, preocupatzen gehiagi. Eta hoxe, pues, bueno, agurtzea noa, muixo handi bat zuri jone bereziki, eta beste guztirire bai, urko, kaixo, muixo bat zuri ere bai, eta hoxe, ba, animo pile bat denai, eutxi goiei, eta animo, muixo bat aizan nazabaletik, Listo.
Et voilà, c'est la fin des infos sur Canu pour ce soir. Et juste avant de terminer, un petit agenda.
Un agenda avec plein de choses, parce qu'il se passe plein de choses à Lyon en ce moment. Et tout de suite, c'est ce soir et c'est demain le festival Nuit Mutine à la MJC du Vieux-Lyon. 5 place Saint-Jean, avec beaucoup de films documentaires projetés sur le genre, sur la Grèce face à la crise, sur la prison, la dette, le travail, tout ça. Et notamment, on a retenu pour vous la projection du docu « Ne vivons plus comme des esclaves sur la crise en Grèce, les manifs, les alternatives ». C'est demain samedi à 20h30. On a retenu aussi « Mon sexe n'est pas mon genre » sur les identités transgenres en dehors de la binarité femme-homme et sur les identités transsexuelles. C'est samedi à 12h30, toujours MJC du Vieux-Lyon. Et enfin, une dédicace, c'est sur les toits, sur un documentaire sur les grandes mutineries des prisons de Toul et de Nancy en 1971-1972, des interviews des gens qui étaient enfermés, des interviews des matons aussi, tout ça. Et il y a plein aussi d'autres films. Sur les toits, c'est à 22h45, si je me trompe pas, samedi soir.
Et samedi soir, demain aussi, en même temps, à 20h30 au local de la CNT, qui se trouve 44 rue Burdeau à la Croix-Rousse, sur les Pentes, il y a une projection du documentaire Ruins. c'est ruines, comme des ruines, mais en anglais. Ça porte sur la criminalisation du VIH, le virus du sida en Grèce, et à travers l'arrestation d'un groupe de femmes qui ont été donc arrêtées par les flics, testées de force, accusées de crimes et emprisonnées. Et tout ça pour le seul fait qu'elles aient été soupçonnées d'être usagères de drogue et travailleuses du sexe. Et elles se battent depuis pour obtenir justice, donc la soirée accompagnée d'un repas à prix libre pour les soutenir.
Une autre petite rendez-vous, c'est demain, c'est RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, qui s'occupe pas mal des personnes sans papier, des familles sans papier avec des enfants en âge d'être scolarisés. Elle organise le parrainage de 11 membres de la chorale Les Chants Sans Papier. C'est à 14h à la mairie du 1er arrondissement. La chorale de RESF, ça existe depuis 2 ans. C'est une initiative qui dure pour renforcer la solidarité avec les personnes qui n'ont pas de papier et les aider à en obtenir.
Et puis lundi, deux rendez-vous tous les deux au tribunal, donc le tribunal de grande instance de Lyon qui se trouve 67 rue Servien dans le 3e arrondissement. Le premier rendez-vous, c'est en soutien à Éric Pétetin qui avait dénoncé les travaux illégaux de OL Lang, donc le nouveau stade d'OL qui est en construction à Décines. Et donc il est poursuivi pour ça, et le rendez-vous pour le soutenir, c'est à partir de midi devant le tribunal. Et un deuxième rendez-vous, une heure après, à partir de 13h, c'est le procès pour le conflit entre les familles qui étaient hébergées rue Frédéric Feiss à Villeurbanne, qui refusent leur expulsion depuis la fin de la trêve hivernale, et le conflit qui les oppose au Grand Lyon, qui veut les mettre dehors, puisque c'est le Grand Lyon qui est propriétaire du lieu. Et notamment Detlef, un des habitants du foyer, en grève de la faim depuis lundi, donc presque une semaine. Et voilà, donc c'est aussi au TGI, tribunal de grande instance, rue Servien dans le 3e.
Et ce Canu Info se termine, et c'est le dernier Canu Info anticarcéral du vendredi. Ça fait un an ou deux que ça dure, on se rappelle même plus tellement, ça fait longtemps, hop hop, mais ça s'arrête pour mieux continuer, parce que maintenant il y aura une vraie émission anticarcérale avec des messages en direct. On arrivera à ce moment-là à faire marcher l'insert téléphonique, et ça s'adressera aux détenus, bien sûr, de Corba, aux détenus de Mézieux, de Saint-Exupéry, de Saint-Quentin-Fallavier, toutes les personnes enfermées qui reçoivent le Radio Canu sur 102.2 FM. Ça s'adressera aux personnes qui sont dehors et qui sont intéressées par avoir des nouvelles de la tôle. Ça s'adressera aux proches. Et voilà. Et ce sera quand? Ce sera les 2e et 4e jeudi de chaque mois, de 20h à 21h sur Radio Canu. On n'a fait plus donc de Canu Info, mais c'est une vraie Canu. C'est une vraie émission anticarcérale qui va s'appeler La Petite Cuillère. Et la première, c'est le deuxième jeudi du mois de juin. Et ça doit être autour du 13. Voilà. Et les messages seront en direct. Et cette émission sera en alternance avec Papillon, l'émission anticarcérale de Radio Dio à Saint-Étienne. Ce sera Radio Audio, c'est l'émission Papillon, c'est de 20h à 21h aussi le jeudi, les premiers et troisièmes jeudis du mois. Voilà, donc il y aura le rendez-vous régulier. On vous donne rendez-vous le 12 juin, donc à 20h, pour les prochaines émissions anticarcérales sur Radio Canu 102.2 FM. Et pour la dernière fois aussi, on passe les micros à Noise Pollution qui va commencer dans 5 petites minutes. Bonne soirée à l'écoute de Radio Canu. Et voilà. Et aussi pour nous écrire, c'est toujours l'atelier d'écriture, 91 rue Montesquieu, 69 007 Lyon. On reçoit bien vos cartes et elles font grave plaisir. Alors merci beaucoup. Et voilà. Et pour les numéros du studio, on verra à la prochaine émission. Bonne soirée tout le monde.
Salut.